Alors, j'aurais besoin pour commencer de 3 volontaires, si possible. Des gens avec des tons d'acteur. Sinon, je vais désigner. Hein. Merci, Noémie. Michael. Je crois que Guillaume, il a envie de venir. Ah, c'est trop gentil, merci, Guillaume. Non, mais je sais que t'es un bon acteur. Alors,
ouais, demi. Yes.
Applaudissez pour Noémie la mendiante. Donc, Noémie va mendier de l'argent. Et on a des passants qui passent, mais qui sont plutôt généreux, qui vont aller. Allez-y, allez au travail. Donc, à cause de la crise, hein, j'ai pas pris des billets, mais j'ai pris des pièces. Mais on va dire que c'est des pièces de 10 centimes, et on va dire que 10 centimes, ça vaut 10 euros, d'accord? Donc, Noémie, merci. Comment ça va? Ça va pas très bien, n'est-ce pas?
Non, ça va pas très bien. La crise, tout ça, c'est compliqué.
Mais il y a eu de la générosité aujourd'hui, quand même.
30 euros.
Waouh, 30 euros, d'accord. Sans être indiscret, combien t'as donné à la première personne?
10 euros.
10 euros. Et la deuxième personne?
20.
20 euros. Pas mal. À ton avis, c'est lequel le plus riche?
C'est le premier.
Comment tu sais?
Parce que j'ai vu qu'il en avait plus.
Merci de gâcher ma... mon image. Mais non, la blague. Donc, ok, mais celui qui t'a donné le plus, c'est qui a donné 20 euros. Donc c'est lui le plus riche, on va dire que tu crois que c'est lui le plus riche puisqu'il t'en a donné plus, d'accord? Merci, d'accord. Maintenant, Guillaume, merci pour ta générosité, vraiment 20 euros, c'est honorable. T'as combien?
Là, il me reste 30 euros.
Il te reste 30 euros. Michael?
90.
Pardon?
90.
90 euros et t'as donné 10 euros.
Ouais.
Ok, bah bravo. Donc merci, merci. Et en fait, là maintenant, je vais vous poser une question. Vous savez combien ont les deux dans leur poche, à votre avis, c'est lequel le plus riche? Michael, pourquoi? Parce qu'il a plus d'argent. Donc en fait, ça veut dire, si je me mettais à la place de Noémie, mais que j'avais pas vu qu'il avait plus d'argent, on va dire, on peut croire que celui qui est le plus riche, c'est celui qui m'a donné 20 euros. Mais quand on regarde à ce qu'ils ont dans les poches, en fait, on croit que c'est celui qui a plus d'argent qui est riche, d'accord? Merci, 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 vous étiez formidables. Ah, merci. J'aurais pu les donner, mais bon. Donc avec... C'était dur à imaginer, mais je me suis dit, en fait, avec cette image, je me suis rendu compte que, en fait, je voulais illustrer combien parfois on peut paraître plus riche que ce qu'on est, ou on peut paraître plus pauvre que ce qu'on est. Je sais parce que ça m'est souvent arrivé en Afrique du Sud que les gens, ils croient qu'on est super riche parce qu'on paye tout le temps des trucs aux gens, alors que pas du tout. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, parfois, on peut paraître plus pauvre que ce qu'on est parce qu'on ne dépense pas ou parce qu'on n'est pas généreux. Et des gens, si vous allez tout le temps, enfin, vous allez au restaurant avec vos amis et qu'il y a un ami qui paye tout le temps à manger aux gens, qui dit non, c'est bon, je te paye. Inconsciemment, vous allez croire que cette personne, elle a plein d'argent. Alors peut-être qu'on se dit, en fait, peut-être je me suis rendu compte que la richesse, la vraie richesse, elle se mesure peut-être plus à travers ce qu'on donne qu'à travers ce qu'on a dans les poches, parce que personne ne sait vraiment ce qu'on a dans les poches. Vous voyez où je veux en venir? Et Dieu, il est typiquement un bon exemple, c'est Dieu, parce qu'on connaît Dieu, on sait qu'il est riche à travers tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous a donné. Il a même donné son fils. Dieu, c'est la personne la plus riche, mais c'est la personne aussi qui a donné le plus. Dieu, il n'y a rien, il n'y a presque rien que Dieu il garde sans partager avec nous, même l'éternité, il nous l'a donné. On en vient au titre de mon message. Ce serait s'il y avait un titre, ce serait la richesse selon le royaume de Dieu. Donc oui, ce matin, on va parler d'argent. Désolée. Et depuis que je suis missionnaire, c'est vraiment, comme Adrien l'a dit, une des valeurs de Jeunesse en Mission, c'est de dépendre de Dieu pour les finances. C'est pas parce que on est pauvre ou que machin. C'est vraiment un choix. Et à Jeunesse en Mission, du directeur jusqu'à l'étudiant, tout le monde Personne n'a de salaire. Il n'y a pas de salarié à Jeunesse Ambition. En fait, on est l'organisation internationale qui a le plus de bénévoles au monde, parce que tout le monde est bénévole. Il n'y a pas de salarié. Et en vivant comme ça, j'ai vraiment appris ce que c'était la vraie richesse et la vraie pauvreté. Parce que moi, avant, comme tout le monde, je me disais, t'es riche si t'as tant, t'es pauvre si t'as tant. Mais au final, ça dépend de la perspective, parce que il y a des gens qui ont beaucoup, mais ils se sentent pas riches, parce qu'il y aura toujours des gens qui ont plus qu'eux, et pareil pour la pauvreté. Donc la première chose que je veux vraiment établir ce matin dans nos têtes, c'est que la richesse n'a rien à voir avec l'argent. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ni l'argent qu'on a, ni l'argent qu'on n'a pas. Par contre, j'ai pas de montre, donc je viens de réaliser. Si c'est trop long, baillez bruyamment. Ah merci, c'est gentil. Et donc, la richesse, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on a ou l'argent qu'on n'a pas. Ça n'a rien à voir avec ce genre de nombre. Et l'ennemi, il joue avec l'argent. Il utilise l'argent pour nous lier en tant que chrétiens, nous empêcher de grandir, nous empêcher d'obéir à Dieu, nous empêcher d'avoir de l'autorité dans le monde et dans le royaume de Dieu à cause de l'argent, pas à cause de l'argent en soi, à cause de notre rapport à l'argent. On va prendre un premier texte ce matin. C'est dans 1 Timothée 6. Et je vais lire à partir du verset 7. 1 Timothée 6, à partir du verset 7. Vous voyez, je suis essoufflée parce que je suis jamais debout, en fait. Mais ça va. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et donc dans ce verset, on voit vraiment comment l'ennemi, il piège les chrétiens, il piège les... Même pas que les chrétiens, il piège les hommes. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Le piège, en fait, c'est ceux qui veulent s'enrichir. C'est en voulant, le fait de vouloir s'enrichir. Et vous me direz, non, mais c'est pas mauvais de vouloir grandir dans la société, machin, machin. Mais le problème, quand on veut s'enrichir, c'est que le fait de vouloir avoir plus, ça s'enracine dans un péché qui est l'insatisfaction. Parce que l'insatisfaction, c'est pas le fait de... Il y a une différence entre être insatisfait et reconnaître ses besoins. Reconnaître ses besoins, c'est j'ai faim, j'ai pas à manger. Je dois manger ou j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. J'en ai pas, je peux pas aller au travail. L'insatisfaction, c'est j'ai faim, mais j'ai pas envie de manger ce qu'il y a dans mon frigo. En fait, la différence, c'est que l'insatisfaction, et c'est facile de voir quand c'est un péché, c'est parce que il y a toujours, quand on est insatisfait, il y a toujours un moment où on méprise ce qu'on a. Il y a toujours un moment où ce qu'on a, en fait, on n'en veut pas. Et on regarde ailleurs. Et le problème de l'insatisfaction, c'est qu'elle marche toujours avec sa sœur jumelle, la convoitise. On n'est pas insatisfait et « Ah, ça, j'ai pas envie de manger ça. » Non, j'ai envie de manger ça, là-bas, que mon voisin, il est en train de manger. C'est pas « J'ai pas envie de manger ça » et ça s'arrête là. L'insatisfaction va toujours de pair avec la convoitise. Et c'est très différent du besoin, parce que quand on est insatisfait et qu'on commence à convoiter, on regarde même... C'est comme si ce qu'on a, on le voyait pas. On le voyait plus du tout. Et le problème de ça, quand on veut s'enrichir, quand on est dans l'insatisfaction et dans la convoitise, c'est que ça se satisfait pas. C'est un sentiment que même si... Okay, j'ai pas envie de manger ce que j'ai dans mon frigo, j'ai envie de manger de la pizza, je mange de la pizza, mais après on va dire « Ah, c'était bon, mais vraiment, ce soir... » J'ai quand même envie de manger maintenant un McDo et j'en ai toujours pas dans mon frigo. En fait, c'est un sentiment qui... On a l'illusion qu'en comblant cette envie, cette convoitise, qu'en comblant cette insatisfaction, ça va passer, mais en fait, ça passe pas. Ça passe pas parce que c'est comme un vice, en fait. Quand on méprise les choses qu'on a au profit de ce qu'on n'a pas, c'est un vice et ce sera toujours pareil. Et par hasard en plus, je crois que c'était hier, non, avant-hier, je suis tombée sur un film. Bon, c'est pas un film très chrétien, mais il était bien quand même. Il s'appelle Scarface, pour ceux qui l'ont vu. Et en fait, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais ce film, c'est un truc de fou. C'est le héros, il est vraiment dans l'insatisfaction de tout ce qu'il a et dans la convoitise. Bon, après, il deal de la drogue et tout, c'est vraiment... Il est dans le milieu de la drogue et tout ça, mais il convoite, il dit « je veux de l'argent, il veut de l'argent ». Il a son boss, parrain de la drogue, il convoite sa femme, il veut sa femme, à la fin il le tue, il a sa femme, et tout ce qu'il veut, vraiment tout ce que ses yeux, tout ce qu'il pose les yeux, oui bon, tout ce sur, merci, tout ce sur quoi il pose les yeux, il le désire, et il l'a, et plus on avance dans le film, plus on le voit insatisfait et malheureux, et les dernières 15-20 minutes du film, il fait que de se plaindre, d'insulter sa femme, d'être pas content, de dire que tous les gens qui travaillent, c'est des incapables, et bon, c'est plein de gros mots dans le film. Mais il est vraiment, il est en colère, il a la haine, il vit dans un palace, il a une piscine, ça fait la moitié de... un jacuzzi, ça fait la moitié de la salle, il a la femme qu'il voulait, il a tout ce qu'il voulait, et il est, mais vous le voyez, c'est l'homme le plus malheureux de la Terre. Parce que il est dans ce vice de s'enrichir, d'insatisfaction. À un moment, il compte des billets, 1,3 million de dollars. Mais il n'est pas content. Cet homme n'est pas content. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou comme c'est vrai que quand on tombe dans ce vice de l'insatisfaction, de vouloir s'enrichir, comme la Bible dit, c'est écrire noir sur blanc, c'est un piège. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Scarface, franchement, la même chose. Non mais c'est vrai, c'est vraiment vraiment vrai. Et en fait après on tombe dans un autre piège, qu'on trouve dans un autre verset, c'est dans Luc 16 verset 13, je vais le lire rapidement mais vous le connaissez, Luc 16 verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et en fait, quand on commence à avoir l'insatisfaction et la convoitise, et ben on commence à servir maman, à servir l'argent. Comment on sert l'argent? C'est quand on a l'illusion que, ok, pour combler mes désirs, j'ai besoin d'argent. Donc tout ce que je vais le faire pour l'argent, pour gagner de l'argent. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais tous nos actes, ils sont dirigés par l'argent, comme si l'argent c'était un dieu, comme si l'argent c'était une personne. Ah, mais je peux pas être généreux parce que c'est mon argent, je peux pas acheter des cadeaux de Noël parce que voilà, machin, je peux pas... faut que je travaille plus parce que j'ai besoin de plus d'argent. C'est tout avec l'argent. Même pas avec des projets, même pas j'ai besoin d'acheter ça, même pas, il y a même plus... Au bout d'un moment, il n'y a même plus la convoitise derrière d'acheter des choses. C'est vraiment l'argent en soi. Et ça devient une sécurité. Comme si, ah, j'ai de l'argent, bah, je vais vivre longtemps, je ne vais pas avoir de problème, j'aurai la santé, parce que j'ai de l'argent. Et il y a aussi une histoire dans la Bible, on ne va pas la lire, qui dit ça. L'homme qui amasse tellement de blé, et il fait construire, qu'il n'a plus de place dans ses greniers, il fait construire des plus grands greniers pour mettre tout son blé. Et puis il va se coucher heureux, comme si, ça y est, j'ai réussi ma vie, et il meurt. Et c'est la même chose, en fait, c'est le fait de mettre toute sa sécurité dans un chiffre, dans l'argent. Et après, quand on en vient là, l'argent, ça devient comme une valeur, comme un poids de valeur. Ah, si j'ai de l'argent, j'ai de la valeur. Si j'ai pas d'argent, j'ai pas de valeur. Tout simplement. Et comme ça, ça paraît dur, mais on a tous pensé comme ça. Je pense qu'on est tous tombés dans des pièges comme ça en voyant la société dans laquelle on vit. On a tous, à un moment donné, un rapport mauvais à l'argent, soit parce qu'on a été aveuglés et on fait des choses juste pour avoir plus d'argent, juste pour en avoir plus, même pas avec un projet précis, ou alors on est dans le mépris de ce qu'on a et on convoite d'autres choses, ou alors on se sent meilleur ou moins bien que d'autres parce qu'on a plus ou pas assez d'argent. Et ce matin, j'aimerais vraiment prendre un temps où on va se questionner devant Dieu, on va se demander où j'en suis moi par rapport à l'argent. Et il y a des questions simples qu'on peut se demander. Réfléchissez. par exemple, est-ce que je suis mal à l'aise quand j'ai plus d'argent que quelqu'un? Par exemple, je suis avec quelqu'un, on va au restaurant, et cette personne, elle a que 15 euros pour s'acheter un plat, et moi, j'en ai 30 ou 40. Enfin, moi, j'ai pas de limite, je peux prendre ce que je veux. Est-ce que ça nous met mal à l'aise? Est-ce que ça vous met mal à l'aise?
Non.
Ou alors, est-ce que je suis mal à l'aise quand je sais que j'ai moins d'argent que des gens quand on sort et tout le monde veut sortir, faire un truc, et moi, je sais que j'ai pas les moyens? Est-ce que ça me met mal à l'aise? Ou alors, est-ce que j'ai peur? Mais vraiment, ça me donne de l'angoisse d'imaginer qu'à un moment, je peux avoir plus d'argent, c'est-à-dire zéro, vraiment pas de découvert, j'ai plus rien. Est-ce que ça me fait peur, ça me met de l'angoisse? Ou alors encore, est-ce que j'arrive pas à garder de l'argent? Quand j'ai trop d'argent, je commence à paniquer, j'achète n'importe quoi. Ça aussi, c'est un problème. Et déjà, ils peuvent pas garder de l'argent. Ça leur brûle les mains. Ils savent pas quoi faire. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Ils se sentent mal à l'aise d'avoir de l'argent. Il faut qu'ils restent pauvres. Parce qu'au moins, ils savent. Mais franchement, j'en connais un. Et non, mais je parle de ça parce que c'est aussi du vécu. Le fait de... Quand on sait pas combien on va avoir d'argent dans le mois, quand on sait pas... Quand on peut pas s'organiser... Et bah typiquement, toutes les quatre là, je les ai vécues. Parce que parfois, je suis mal à l'aise parce que j'ai reçu de l'argent plus que ce que j'avais besoin, mais mes collègues, ils ont pas. Ou parfois, tout le monde dit « Oh, on va sortir, on va faire un bowling. » Mais je peux pas aller avec vous. J'aimerais bien, mais non. J'ai pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai zéro. Et moi, je pense que l'argent... Ah merci, c'est très gentil. Et moi, je pense que l'argent, ça devrait jamais nous mettre mal à l'aise. Jamais. Aujourd'hui, j'ai moins que toi. Demain, je pourrais avoir plus. Aujourd'hui, tu m'achètes, mais demain, c'est peut-être moi qui vais te payer quelque chose. Parce que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent, non? Moi, j'ai appris ça. Avant, j'étais mal à l'aise. Maintenant, ah, j'ai pas d'argent. Tu vas aller au bowling? Oui, mais tu dois me payer. C'est pas grave. Ou sinon, viens avec moi, je te paye parce que j'ai de l'argent. Et c'est pas un problème, parce que ça veut rien dire sur qui je suis. Ça veut rien dire sur qui tu es. Ah, maintenant, je suis comme ça. Si j'ai pas d'argent, je vais vous le dire. Mais si j'en ai, je vais aussi vous le dire. Je vais pas mentir. À un moment, j'avais peur d'avoir zéro sur mon compte. Et cette année, pendant 2 semaines, Adrien, on avait plus d'argent. Zéro, 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 plus. Même pas le découvert, même pas les dernières. On n'avait plus d'argent du tout. Zéro, rien. Et on s'est dit, mais d'habitude, ça arrive à zéro et Dieu pourvoit et ça va. C'est pour ça que j'avais pas peur. Mais là, 0,1 jour, 0,2 jour, 0,3 jour. Seigneur, c'est bizarre, là, les couches, elles commencent à se finir. Et Dieu, il nous a vraiment brisés, il nous a appris à aller voir les gens qui sont autour de nous. Parce que nous, on s'attendait toujours en France, nos soutiens en France, nos familles. Et on voyait pas qu'il y a des gens autour de nous qui nous aiment, qui sont là aussi pour nous soutenir. Et les gens autour de nous, les gens avec qui on travaillait, sur la photo, ont vu qu'on avait plus d'argent, et pourtant on faisait toujours des réunions chez nous, enfin, les réunions de staff on fait chez nous, on fait le café, on a des gâteaux, enfin, pareil. Il y a une fille qui nous a payé les courses, une fille qui nous a mis de l'essence, des amis qui nous ont donné les couches, les lingettes et tout, jusqu'à ce que l'argent arrive, et après c'était fini. Et c'est des gens à qui nous, on a déjà aussi donné de l'argent, et aussi pour briser l'orgueil de dire, oh là là, j'ai pas d'argent. En plus, les gens, je veux dire la vérité, ils pensent qu'on est européens, en Afrique, que nous, comme l'euro, il est plus fort que le rand, bah, qu'on est riche, alors que pas du tout. Il y a des amis sud-africains qui ont beaucoup plus de soutien que nous, et ça veut rien dire, en fait. Tout ça pour dire que l'argent, ça veut rien dire. Sur ce que vous êtes riche ou pas riche, parce que un jour vous en avez, un jour vous en avez pas, il faut jamais être mal à l'aise ou avoir peur de l'argent. Et c'est comme ça que l'ennemi nous coince, c'est quand on a peur de l'argent, quand on a peur d'avoir, quand on a peur de ne pas avoir. Et Dieu, il ne veut pas qu'on ait peur. Parce que si on a peur, c'est là qu'on commence à servir maman. Et on méprise Dieu et on sert l'autre, parce qu'on va servir le maître qu'on craint. Et Dieu, il n'acceptera pas qu'on craigne quelqu'un d'autre que lui. Donc ça amène à notre prochain point, mais ce sera plus très long. sur la richesse et la pauvreté. Alors qu'est-ce que c'est ? Vraiment, la richesse et la pauvreté, moi j'ai vu, j'ai découvert que c'est dans la tête. Si tu crois que t'es riche, t'es riche. Si tu crois que t'es pauvre, t'es pauvre. Peu importe combien t'as dans ton compte en banque. Moi, je dis jamais que je suis pauvre. Même si j'ai zéro, ah, j'ai pas d'argent. Mais je suis pas pauvre. C'est vrai. C'est vrai, moi je suis pas pauvre. On va lire dans Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Alors, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carreaux que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ça, c'est le passage que j'ai reçu quand j'étais en train de dormir et que j'avais rêvé que je prêchais ça et je ne voyais pas le rapport au début. Mais en fait, après on me revient, je me suis dit, mais c'est vrai que ça parle d'argent. Enfin, j'avais jamais remarqué que ce passage parlait beaucoup d'argent et de richesse. Je voyais que la relation du père et du fils, mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu. Et en fait, dans ce passage, on va vraiment voir l'esprit de pauvreté, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est vraiment ce que c'est la vraie richesse. Et les deux fils, dans la parabole, les deux fils, ils vivent avec une mentalité de pauvreté. Le premier fils, il croit qu'il a rien. C'est pour ça qu'il demande son héritage. Sinon, il ne demanderait pas. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé avec son père, s'il s'est embrouillé, mais à mon avis, il devait se dire, voilà, je suis là, j'ai rien, moi, je veux vivre ma vie, nanana, et il prend, donne-moi mon héritage, et je m'en vais. Et vous voyez, il prend son héritage, à mon avis ça devait être beaucoup, et il a tout dépensé. Ce que je vous disais, il y a des gens, l'argent, ça leur brûle les doigts. Ils savent pas être riches, en fait ils savent pas avoir des biens. Il faut qu'ils se retrouvent dans une position de pauvre, parce que dans leur tête, ils se disent ils sont pauvres. Et moi je vois en Afrique du Sud des gens qui ont un travail et tout ça, mais comme dans leur tête ils sont pauvres, le premier jour de la paye, ils vont au centre commercial, ils dépensent tout. Ils achètent des chaussures à 200 euros, ils achètent des télés, ils achètent des trucs de fou. Et là, ils vivent dans une maison, c'est des cabanes. Et tu dis, mais pourquoi tu vas pas investir dans une maison? Pourquoi tu vas pas sortir de ta situation? Parce que dans leur tête, ils peuvent pas. Mais non, je peux pas, je suis pauvre. Alors qu'ils ont assez. Parfois, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans la même maison, ils pourraient s'en sortir. Il y a des gens qui s'en sortent en mettant de côté, en se disant, non, je vais réussir. Non, moi, je vais être quelqu'un. Mais il y a des gens, parce que dans leur tête, ils sont pauvres. Maintenant, je suis pauvre, je peux pas donner la dîme, je peux rien donner, moi. Et tout l'argent qu'ils ont, c'est pour satisfaire leurs désirs, leur insatisfaction, leur convoitise, parce qu'ils croient qu'en faisant ça, bah, ils seront riches. Mais ça, ça disparaît. C'est un sentiment de 10 minutes. Et après, ils vivent toujours dans la même maison, ils ont toujours la même pauvreté, mais ils dépensent comme le premier fils. Dans sa tête, il a rien. Donc même si le père lui donne son héritage, en quelques mois, en quelques temps, c'est fini. Donc le premier fils, il croit qu'il a rien, et après il se retrouve sans rien, il dépense tout. Et avec cette mentalité, quand on a une mentalité comme ça de pauvreté, on n'a pas l'autorité pour investir, on n'a pas l'autorité pour garder l'argent, on n'a pas une autorité de riche, entre guillemets, parce que dans la tête, on est pauvre. Et moi, j'ai vu des gens avec beaucoup d'argent faire ça, mais qui se retrouvent toujours en bas, parce que dans la tête, ils se disent « je suis pauvre ». Et c'est vraiment la clé de l'ennemi avec ça, de l'esprit de pauvreté, c'est justement de te maintenir dans un esprit de pauvreté. Parce que Dieu, il veut pas qu'on reste pauvre avec une mentalité de pauvre. C'est pas ce qu'il veut. Quand je parle de l'argent et tout, je dis pas Dieu, il veut qu'on soit à zéro. Mais Dieu, il veut qu'on marche avec autorité. Il veut qu'on investisse. Il veut qu'on enrichisse les gens, qu'on enrichisse l'économie. Et surtout, il veut nous délivrer de la peur. De la peur de tout ça. Et c'est en n'ayant pas peur qu'on est vraiment riche. Et il dit, traite-moi comme un ouvrier, parce que dans sa tête, il a, du début à la fin, il n'avait pas compris que c'était un fils. Parce que s'il a compris que c'était un fils, il sait que la maison de son père lui appartient, que ça va lui revenir. Pourquoi il va prendre et il va détruire ce qui est à lui? Depuis le début, il n'a pas compris qui il était. Et le deuxième fils, c'est pareil, tout aussi pauvre. Pourquoi? Lui aussi croit qu'il a rien. Ouais, moi je suis là, je travaille tous les jours et tu me donnes rien. Mais son père, il lui dit, mais en fait, t'as pas compris que tout ce qui est à moi est à toi. T'as pas compris que tu peux prendre ce qui est là. Lui aussi, il a pas compris. Et ça, c'est l'autre esprit de pauvreté dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui travaillent et qui gardent. Il y a des gens qui ont des sommes astronomiques sur leur compte, mais qui vivent comme s'ils avaient le SMIC. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Lui, il a peur de dépenser. Il dit non, tous les jours je travaille, mais il dépense jamais. Il va prendre un chevreau pour être avec ses amis parce qu'il dit non, ça m'appartient pas, j'ai pas le droit. Et il y a des gens, c'est pareil, ils se sentent pauvres parce qu'ils travaillent, ils ont de l'argent, mais ils se sentent pas le droit de dépenser. J'ai vu ça en Afrique du Sud aussi, des gens qui gagnent 4000, 5000 euros. Et je leur dis, mais tu devrais venir à Paris en vacances et tout. Ah, mais non, j'ai pas assez, je suis pauvre. T'es pauvre, t'es riche même en France. Non, et tout. Et en fait, ils disent, non, je sais, j'ai beaucoup d'argent, mais par rapport à ici, mais en vrai, j'ai pas d'argent. Vous êtes deux, vous êtes un couple, vous vivez dans un appartement avec 5 chambres. Non, tu n'es pas pauvre. Non, mais ils vivent comme s'ils avaient rien. Parce que, dans la tête, des gens qui vivent pareil, des gens qui ont 300 euros par mois, des gens qui ont 5000 euros par mois. Pareil. Je vais vous dire une chose, une fois on est parti, en Afrique du Sud, ils aiment les barbecues, les gens barbecue, matin, midi, soir, barbecue. On va dans un barbecue dans les townships, vraiment dans les bidonvilles avec Adriel. Donc tout le monde, souvent on appelle ça bring and braai, tu ramènes ta viande et on grille tout, on ramène sa viande et on grille tout. Tu vas là-bas, mais des montagnes de viande, tout le monde ramène de la viande dans les townships, dans les bidonvilles, et à la fin on mange un buffet de viande. Mais, et poissons, quand on a été là-bas, c'est vrai, ils nous avaient fait un plat avec des fruits de mer et tout, mais j'ai cru que j'allais jamais me relever. On a été avec des amis de notre église, des gens qui gagnent bien leur vie, dans une maison, sur la montagne, au bord de la mer. C'est un Airbnb que normalement ils louent pour des touristes, mais là, ils l'avaient. Enfin bref, c'est une maison, mais de rêve, que je vous mets sur les cartes postales. On fait un bring and braai, pareil, on ramène de la viande. Mais là-bas, avec les gens qui ont des moyens en Afrique du Sud, c'est tu ramènes ce que t'as mangé. Donc si t'as ramené du poulet, tu ramènes du poulet. Si l'autre, il a ramené des côtelettes d'agneau, mange des côtelettes. C'est genre, chacun prend sa viande. Et ouais, c'est autre chose. Hein. Qui est riche? Qui est riche? Franchement, qui est riche? Moi, je ramène, moi, quand on me dit bring and braai, je ramène jamais, j'achète jamais un poulet, un morceau de poulet pour moi, un morceau de poulet pour Adriel, parce que je sais pas, c'est pas ma culture, je ramène un gros plat, et voilà. Et après, les gens, ils sont riches, mais ils tapent tous dans notre viande. Hein. Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai ramené 10 morceaux. Je vais pas tout manger, j'ai fait exprès. Mais tu vois, les gens, ils ont ramené 2 brochettes. C'est ça, hein. Franchement, la richesse, c'est pas ce qu'on croit, je vous le dis. Donc, moi, je vais vous dire, dites jamais que vous êtes pauvre. Toujours, vous êtes riche. T'es riche. Vous êtes riche. Si, quand on, la pauvreté, ça commence quand on pense qu'on est pauvre. Mais alors, qu'est-ce que c'est la richesse? On va quand même finir avec la solution à nos problèmes. La richesse, ça commence avec la reconnaissance. La reconnaissance. Et on bloque l'insatisfaction, la convoitise, l'argent, tout le cercle vicieux. La reconnaissance. Le matin, je me lève, Seigneur, merci. Parce que je me réveille, parce que je suis dans un lit, parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête, parce que j'ai le petit déjeuner. Parce que... Et on est dans la reconnaissance de toujours ce que Dieu il a. Et ça, c'est pareil. C'est comme l'insatisfaction, c'est le contraire. Quand on est dans la reconnaissance, on trouvera toujours quelque chose qu'on va remercier. Quand on n'est pas habitué, c'est dur. Quand on est tout le temps dans l'insatisfaction, bah, remercie le Seigneur. Ouais, j'ai rien à remercier. Non ? On a toujours quelque chose à remercier. Je me souviens une fois, j'étais en train d'enseigner, c'était trop marrant, sur les témoignages. En fait, j'apprenais aux étudiants comment faire un témoignage, comment raconter un témoignage. Et il y a une fille qui lève la main, une Norvégienne, elle me dit « Oui, mais si on n'a pas de témoignage ?» Je dis « Comment ça, si t'as pas de témoignage ?» Elle me dit « Non, mais si on n'a rien à dire ?» Je dis « Non, mais t'as pas rien à dire, Dieu, il a fait quelque chose pour toi, t'es vivant, t'as 18 ans, t'es en Afrique du Sud, t'habites en Norvège. Non, Dieu, il a fait quelque chose pour toi. » Non, mais j'ai pas de témoignage. Je suis rendue une femme chrétienne. J'ai dit non, tu vas dans ta chambre, tu pries, tu sors pas. Je sais que t'as un témoignage. C'est quoi ça? J'ai pas de témoignage. Non, mais. Non, tu vas pas me dire que t'as 18 ans, t'es ici en jeunesse en mission, Dieu n'a rien fait pour toi, ça va pas quoi. Je dis c'est juste que tu vois pas. Non, mais franchement. Donc j'ai dit non, la reconnaissance, ça commence avec la reconnaissance. Ça nous préserve de la frustration, l'insatisfaction. Toujours la reconnaissance. Ensuite, le deuxième point, la générosité. La générosité et le derrière de la générosité, ça sort, comme j'ai dit, avec l'insatisfaction, la générosité et l'autorité. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité dans le monde, ou dans le monde des finances, ou dans rien du tout, si vous n'êtes pas généreux. Parce que si on n'est pas généreux, on coupe. Ah, je ne saurais pas trop bien comment expliquer celui-là, mais je sais que c'est en étant généreux qu'on se libère de la crainte quand on n'a pas peur. C'est là qu'on a de l'autorité. Et vous le voyez avec le père dans cette histoire. Le père, il est généreux. Il a déjà donné à son fils sa part. Quand il revient, il pourrait lui dire, « Elle est où ta part ?» Mais non, il ne lui dit pas ça. Il lui dit, « Mais prends ça. » Il lui met un anneau d'or. Ça veut dire, « Je te redonne l'autorité. » Ça t'appartient toujours. Il est généreux. Et c'est comme ça qu'il a l'autorité sur son fils, sur ses deux fils. C'est comme ça qu'en donnant, c'est comme ça qu'on montre que ça nous appartient. C'est C.S. Lewis qui disait ça. Rien ne vous appartient vraiment tant qu'on ne peut pas le donner. Si on n'arrive pas à donner quelque chose, ça veut dire qu'on croit que ce n'est pas à nous et qu'on va le perdre. La générosité, quand on apprend à être généreux, on vit comme Dieu il veut qu'on vive sur la terre. Parce que Dieu, il est généreux. Tous les jours, il fait briller son soleil, il fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Peu importe comment on s'est comporté. Et nous, combien de fois on juge? Non, mais non, moi je ne peux pas donner ça parce que je n'ai pas. Mais lui, moi je donne, pourquoi lui il ne donne pas? Non, Dieu, il nous appelle vraiment à être généreux. Et tant qu'on n'est pas généreux, on ne sera pas libre. Point, c'est juste là. Tant qu'on n'arrive pas à donner, c'est que c'est l'argent qui nous tient. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui nous tient. Et j'ai mon ami Billy, là, qu'on a vu, lui, il vient d'un vraiment un milieu de modeste, vraiment des bidonvilles en Afrique du Sud. Et maintenant, vraiment, il a une autorité, il a grandi avec Dieu, il a une onction sur les finances, mais un truc de fou. Il arrive toujours à débloquer. Lui, quand il prend une offrande, il y a 10 000 euros qui sortent. Même des étudiants qui ont 18 ans, tout le monde est... Mais c'est pas même pas pour lui. C'est vraiment, il a une autorité, il a une onction parce qu'il sait, parce que lui, il donne, lui, c'est quelqu'un de généreux. Il nous invite toujours, il nous paye tout. Et c'est pas quelqu'un qui a beaucoup. Et il dit toujours cette phrase aux jeunes qui viennent des bidonvilles. Il dit, en anglais, on dit... Comment il dit? You give yourself out of poverty. Ça veut dire, tu te donnes hors de la pauvreté. C'est pas on sort de la pauvreté en donnant. Tu te donnes hors de la pauvreté. Comme si, plus tu vas donner, plus tu vas te vider. C'est là que tu vas sortir de la pauvreté parce que tu t'accroches pas à ce que t'as. Il le dit tout le temps. Et franchement, lui, vraiment, il m'a tellement appris. Tellement appris. Et là, vous aurez la liberté sur les finances. Et là, quand vous n'aurez pas peur, l'argent, il vient parce que Dieu, il vous fait confiance. Et la dernière chose, reconnaissance, générosité et la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie, c'est tellement important. Ça, c'est la suite de la reconnaissance. Vous voyez dans le père, l'autre, son fils, il arrive, il est dans la joie parce qu'il sait c'est quoi la vraie richesse. La vraie richesse, c'est que son fils, il a envie. Il s'en fiche de son héritage. Il sait que l'argent, ça passe, ça vient. Son fils, il a envie, il est dans la joie. Il se réjouit. Il donne abondamment. Il donne pas bon... tuer le veau gras, mais donner que la moitié, on gardera le reste pour Noël. Non, 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 il est vraiment dans la joie. Et ça, c'est... Quand on vit dans la joie qui découle de la reconnaissance et qu'on est généreux, c'est là qu'on vit vraiment l'identité de Dieu, qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Et quand on vit comme ça, les gens, ils pensent que vous êtes millionnaires, je vous le dis. Et c'est comme si la terre, elle nous appartenait. Et pourtant, on n'a pas plus que les autres. Mais on reconnaît que la terre, elle appartient à notre Père et qu'on va en hériter. C'est la vérité. Peu importe combien on a, c'est la vérité. Est-ce qu'on va vivre comme des héritiers? Est-ce qu'on va vivre comme ces fils-là? Et c'est un mystère du ciel. On ne peut que le vivre. Je vais conclure avec ça. Ça, ce n'est pas un message qu'on peut juste comprendre. C'est un message qu'il faut vivre. Ce n'est pas un message que... Parce que si vous y réfléchissez, ouais, mais comment ça marche? Oui, mais imagine, je donne et qu'après ça vient pas. J'ai entendu des histoires. L'évangile de la prospérité, on donne et les gens ils pensent qu'ils vont recevoir et après ils se retrouvent dans nanananananan. Ça, c'est l'ennemi qui vient déjà avec la peur. Tout simplement. Je vous ai pas dit vous allez donner, vous allez être riche. J'ai pas dit ça. Hein. Mais juste vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Et c'est un message qu'on doit vivre, c'est un message où on doit prendre des décisions, et c'est comme ça que l'ennemi va être écrasé. C'est comme ça que, et c'est en nous donnant peur et en nous faisant vivre différemment qu'il nous vole notre autorité. Donc c'est un combat spirituel, c'est dur. Parfois il faut donner, il faut pas réfléchir. Moi parfois Dieu il m'a appelé à donner ma dîme, je donnais vite, vite, parce que je sais qu'après je vais pas la donner. Je cours à l'église limite avant parce qu'après je sais, sinon je vais pas donner. Et c'est ça qu'on va faire ce matin, on veut vraiment briser le pouvoir de l'ennemi sur nos vies, sur 2019, avec l'argent. Oh, Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour tes enfants ce matin. Je te prie que tu parles à leur cœur, à chacun personnellement, parce que tu sais le cœur de chacun. Et vraiment, je demandais ce matin que vous réfléchissiez. Réfléchissez à un acte que Dieu vous demande de faire. Réfléchissez à quelque chose que Dieu vous demande de donner. Pour certaines personnes, c'est prendre l'engagement de donner sa dîme cette année. Et vraiment sa dîme, pas la dîme à la fin du mois, la dîme ce qui reste. Vraiment la dîme qui honore Dieu, la dîme qui appartient à Dieu. Et Dieu te demande ce matin de prendre l'engagement de donner ta dîme. Il y a certaines personnes, c'est pour les travaux. Dieu vous a vraiment parlé. Parce que vous devez donner un certain montant pour les travaux, mais l'ennemi, il vole le royaume de Dieu en te disant « Oui, mais pourquoi toi, tu devrais donner et pas les autres ?» ou des choses comme ça. Certains d'entre vous, c'est par rapport à votre famille. Dieu vous demande de donner un certain montant à vos parents ou à quelqu'un, un membre de votre famille. Et pareil, la fierté ou l'ennemi qui veut pas que le royaume de Dieu, qui veut pas que la générosité prospère, il vient vous mentir. Mais ce matin, Dieu vous demande de prendre la décision. Certains d'entre vous, peut-être, vous voulez nous soutenir depuis longtemps, mais vous n'avez jamais pris le pas. Vraiment, ce matin, Dieu, il ne demande pas, si vous avez compris, il demande vraiment un pas, il demande vraiment une décision. Que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas. Vraiment, il demande une décision et on va écraser l'ennemi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Vraiment, prenez un temps et réfléchissez. Réfléchissez. N'ayez pas peur. Je sais qu'il y a la peur qui monte maintenant. Mais n'ayez pas peur. Dieu, il prend pas soin des moineaux. Dieu, il prend pas soin des plus petits dans la création. Pourquoi il vous oublierait? Il n'y a pas de miracle de Dieu sans se mettre dans le risque. Mais vraiment, Dieu, il appelle des gens ce matin à donner sacrificiellement. Donner même quelque chose qui leur coûte, même quelque chose qui va peut-être leur manquer. Mais tu sais que Dieu te parle ce matin. Tu sais, et c'est même pas la première fois qu'il te parle par rapport à ça. Amen. Je vais prendre 2-3 minutes maintenant. Je vais vous demander, si vous savez ce que Dieu vous demande, de le dire à quelqu'un. Et cette personne, elle viendra vous dire dimanche prochain, alors est-ce que tu l'as fait ? Parce que l'ennemi, il veut qu'on se le dise dans notre tête et qu'on sorte et qu'on le fasse pas et qu'on oublie. Mais Dieu nous a donné des gens, il nous a donné l'Église pour que on se tienne responsable devant Dieu les uns les autres, pour qu'on se tienne responsable et qu'on dise non, non, je vais le faire. Et c'est pas se mêler des affaires, c'est pas des affaires privées, c'est le royaume de Dieu. Moi, si quelqu'un vient me voir et me dit je dois donner ma dîme, je vais aller voir ce mois-ci, est-ce que tu as donné ta dîme ? Parce que c'est le mandat que Dieu nous donne. Alors juste pendant les 3-4 prochaines minutes, parlez, dites à quelqu'un ce que Dieu vous a dit dans votre cœur. Oui, je dois amener telle personne au restaurant. Oui, je dois donner telle somme à ma famille. Je laisse juste 3 minutes et après on va chanter un chant.